Et vous parliez de Donald Trump. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Quelle est votre vision par rapport à ça? Vous avez d'ailleurs écrit 2012, l'Apocalypse, mais est-ce que vous parliez justement de cette époque un peu trouble que l'on est en train de vivre?
C'est sûr que pour moi, l'Apocalypse est donc un livre biblique assez extraordinaire. Pour moi, il y a toute l'histoire de la civilisation occidentale depuis 2000 ans qui est décrite. Et même si mon approche et mon décodage est juste, ce qui reste à prouver bien sûr, ça nous parle de l'évolution de l'humanité jusqu'en 2090 dans l'Apocalypse. Mais c'est sûr que nous vivons actuellement une époque trouble qui est liée. Alors, le problème de l'Apocalypse, c'est comme les rêves, elle s'exprime en langage symbolique. Et alors, une clé pour moi de ce langage symbolique, c'est de rétroverser le texte grec de l'Apocalypse, seul connu, de le rétroverser en hébreu, ce qui est très facile, hein. Je m'appuie sur les travaux d'un théologien catholique qui a eu un moment de succès, qui est Claude Tresmontant, qui justement a montré avec force que l'ensemble de ces livres du Nouveau Testament, y compris donc l'Apocalypse, cachait un texte hébreu en réalité, hein, puisque ce sont des textes bien sûr officiellement grecs. Mais la structure grammaticale du texte est hébraïque et pas grecque. On a toute la correspondance à un ou deux mots près des mots grecs qui sont dans ce texte en hébreu biblique. Donc on peut facilement rétroverser ces textes. Et alors j'ai essayé de montrer dans ce livre. Alors il n'est pas totalement parfait à mon goût. Je suis en train de faire une réactualisation. Parce que plus on avance et qu'on voit ce qui se passe, plus on comprend que ce qu'on a dit était juste, mais qu'il faut encore le préciser. Donc je suis en train de faire une réactualisation pour une réédition, oui. Et le titre que j'avais choisi était un peu bête, hein, l'après 2012. On faisait tellement le battage sur 2012, comme si c'était la fin du monde. Moi, j'avais mis l'après 2012, mais bon. Et non, je ne suis pas pessimiste, mais nous vivons une époque très difficile qui correspond dans l'Apocalypse au chapitre 11 qui parle de la mort des deux témoins. Alors, bien sûr, il ne faut pas lire le texte au sens littéral. Les deux témoins, c'est en fait les expressions de l'humanisme progressiste, que ce soit en religion ou que ce soit en politique. Or, la mort des deux témoins correspond à la mort de cet humanisme. Et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement, donc ça nous promet sûrement des moments très difficiles, hein. Plusieurs commentateurs politiques parlent d'un mouvement vers la guerre, la fermeture des frontières, la haine, la violence, l'enfermement dans des psychorigidités, que ce soit au niveau politique, hein, on a un gouvernement de gauche qui fait une politique de droite. Au niveau du christianisme, moi j'ai connu un christianisme dans les années 60-70 qui était éminemment progressiste et ouvert. Maintenant on a un christianisme qui est plutôt rigide, de haine. Enfin les éléments dominants, je parle, hein. Bien sûr le christianisme se réduit jamais à ça. Il y a un pape qui semble résister à cette pression aussi, mais on voit bien que quelque chose comme une sorte de mise à mort de cet humanisme, donc on va sûrement connaître une période très dangereuse, avec beaucoup de risques pour l'être humain, mais je suis très optimiste parce que je sais qu'ensuite, d'après ce livre, on va vers un réveil de l'humanité, hein, dans le sens de l'amour, de la communauté, de... Mais c'est ce qu'on voit, hein. On voit en même temps qu'il y a ce raidissement de fermeture, en même temps, à Barcelone, il y a quelques jours, il y a eu une manifestation de 160 000 personnes, ce qui est énorme, pour défendre l'accueil des réfugiés, en disant « Chez nous, c'est chez vous ». C'était leur mot d'ordre. « Chez nous, c'est chez vous », c'est un peu le mot d'ordre de la Kabbale. C'est-à-dire, la Kabbale conçoit la maison comme éminemment ouverte à l'accueil. Vous savez, on représente Abraham comme quelqu'un qui se tenait à l'entrée de sa tente et qui accueillait tous les gens qui passaient sur la route. Hein, c'est comme ça qu'il a accueilli les trois anges qui lui ont annoncé la naissance prochaine d'Isaac, alors que sa femme était stérile. Et en fait, il ne savait pas du tout que c'était des anges. Il accueillait toutes les personnes qui passaient devant chez lui. Il leur offrait à boire, il leur lavait même les pieds, puisqu'à l'époque, les routes étaient poudreuses. Voilà, c'est le principe de l'hospitalité. C'est un principe éminemment hébraïque.
La figure de Jésus, voilà, parce qu'elle vous parle également beaucoup. Vous avez d'ailleurs, je pense, écrit un manifeste récemment sur un, voilà, sur un site internet en 2011. Et est-ce que bah, vous pouvez peut-être nous parler un peu de Jésus ? Qui est-il pour vous, justement ?
Alors Jésus, moi je l'appelle Yeshua parce que je suis un hébreu. Ben, pour moi, c'est une figure fondamentale. Je suis un judéo-chrétien, mais c'est une position très inconfortable parce que quand je m'adresse aux juifs, ils me disent que je suis chrétien. Et quand je m'adresse aux chrétiens, ils me disent que je suis juif. Hein? Parce que pour moi, mon Yeshua n'est pas forcément celui du dogme chrétien classique. C'est-à-dire pour moi, c'est pas un dieu extérieur à l'humanité. Je pense que cette vision des choses a justement nous a éloignés de la puissance de résurrection que Yeshua nous communique. Et en fait, pour moi, c'est l'être humain qui est divin fondamentalement. C'est l'être humain qui a une essence divine. Et Yeshua, c'est l'être humain en lequel l'essence divine qui nous constitue a totalement transparu. Il y a une parole de Victor Hugo qui parle de Jésus en disant quelque chose que j'aime bien. Il dit « Jésus est venu nous montrer la quantité de Dieu qui peut être contenue dans un être humain. » Voilà, Jésus, c'est l'expression de l'essence humaine véritable. Et c'est pas Jésus seul qui a le pouvoir de guérir les malades. Nous avons tous cette faculté en nous. Et nous sommes tous des canaux de l'expression de la puissance divine, l'expression de l'amour divin, du Père, de la source. Elle est en nous. Et donc, pour moi, Yeshua est très important, mais je le définis pas comme Dieu, mais plutôt comme l'être humain véritable.
Oui, ça rejoint d'ailleurs, on parlait de l'inflation du moi tout à l'heure. Est-ce que définir justement Jésus comme étant Dieu, ça ne participe pas justement de, quelque part, cette inflation ?
Tout à fait. D'autant plus que, bien sûr, il y a toujours des représentants sur la Terre qui se prétendent les représentants de ce Dieu et qui imposent leur pouvoir. Et donc c'est ça l'inflation finalement. Et pour moi, ce que je lis dans les évangiles, hein, j'ai beaucoup lu et travaillé les évangiles, c'est finalement la possibilité d'avènement de l'humanité véritable. Et notamment pour moi, il s'est vraiment passé quelque chose. Donc après la crucifixion de Jésus, il y a vraiment eu pour moi quelque chose comme la bonne nouvelle d'une victoire sur la mort, d'une victoire possible sur la mort. Et Yeshua, depuis 2000 ans, ne cesse de nous transmettre la vibration de la résurrection. Mais la recevons-nous ? C'est la question.
Pour reparler de ce rapport à la judéité de Jésus, vous appelez donc Pierre Trigallo, mais vous avez également fait œuvre de 6 volumes de relecture de la Bible symbolique. Voilà. Et là, vous avez signé sous le nom de Pierre Israël Trigallo.
Oui.
Est-ce au sens paulinien du terme ?
Non, c'est un sens très prosaïque. C'est que c'est le nom de baptême qui m'a été donné par ma famille. Oui. Donc à l'âge de 8 jours, au moment de ma circoncision. Je ne l'ai jamais utilisé. Il faut dire que c'est un peu spécial parce que donc à l'âge de 8 jours, c'était le moment de la circoncision pour dans une famille juive. Mais il n'y avait rien à circoncire, c'est-à-dire mon prépuce n'avait pas poussé. Je suis né sans prépuce, c'est arrive. Et dans ce cas-là, la tradition juive a prévu le coup. On donne soit le nom d'Israël, soit le nom de Moïse, parce que Jacob, Israël et Moïse sont dits nés circoncis par... Mais ne me prenez pas pour un Moïse. Hein. En fait, l'histoire est moins parfaite que ce qu'il en a l'air, parce que mon prépuce a poussé ensuite. Et donc, j'ai été circoncis à l'âge de 13 ans. Mais j'ai gardé ce prénom hébraïque, Israël.
Symboliquement, vous qui vous intéressez justement à la symbolique, est-ce que vous n'avez pas, vous y avez sciemment pensé en mettant, c'était juste.
Non, si je l'ai mis, c'était pour exprimer ce retour à la source hébraïque des textes. Hein, c'était ce que je voulais montrer. Mais je dois avouer que après j'ai regretté, parce que tous les gens comprennent Israël comme un qualificatif, un nom ethnique, en fait. Pour moi, ça n'a rien d'ethnique. Ben, par exemple, ce prénom Israël n'a pas de rapport avec l'État d'Israël. Et donc, comme il y avait des confusions ensuite, voilà. Ce qui me plaisait, c'est d'avoir un prénom, entre guillemets, chrétien, Pierre, associé à un prénom hébraïque. Ce qui me plaît toujours, c'est cette dimension de traverser, de pont, pas rester enfermé dans une identité. Alors, j'ai senti qu'avec mon prénom Israël, on m'enfermait dans l'identité, finalement. Donc, je suis revenu à mon prénom classique, Pierre. Vous voyez, pour moi, ce qui est essentiel, c'est la dimension hébraïque. Parce que hébreu, en hébreu, donc c'est un mot qui se dit ivri en hébreu, en fait, n'a pas de connotation ethnique. L'hébreu, c'est le passeur, celui qui va sur l'autre rive de la rivière. Littéralement, c'est ça, au départ. Vous voyez ? Celui qui traverse, celui qui ne reste pas coincé dans les frontières d'une identité. Moi, mon travail, ce serait cette réunion, cette ouverture des identités les unes vers les autres qui ferait que ce ne sont plus des identités, mais des différences qui s'accueillent mutuellement. C'est le sens de mon travail.
Parce que vous vous intéressez donc beaucoup aux rêves donc de vos contemporains. Est-ce qu'avec votre épouse, vous auriez l'idée peut-être un jour de dresser une cartographie des rêves contemporains pour avoir une vision de l'époque?
Alors on avait un peu tenté ça avec le sel des rêves. Oui, nous sommes en train de travailler un livre. Ce ne sera pas un dictionnaire des symboles, parce que je suis contre les dictionnaires des symboles. parce que c'est toujours une codification abstraite, hein, alors qu'un rêve, c'est quelque chose de vivant, qu'il faut travailler sur le moment. Et d'ailleurs, en élargissant aussi à ce que Jung appelle les phénomènes de synchronicité, hein, c'est-à-dire, en fait, il y a les rêves que nous recevons la nuit, donc, en dormant, mais il y a plein d'événements dans notre vie diurne et même d'événements du monde qui sont comme des rêves. Ce que Jung appelle des synchronicités. C'est des associations de phénomènes très troublants qui sont signifiants, qui nous interpellent, qui... Par exemple, je peux vous en donner une. C'était début 2015. Il y avait les élections en Grèce. Hein, et puis c'était, vous vous rappelez, le parti Syriza, et qui avait, je crois que c'était même, je me rappelle la date, le 26 janvier 2015. Et le jour même, il y a un gros accident en Espagne sur une base de l'OTAN, où un avion grec vient s'écraser sur un avion, parce que c'était des entraînements de l'OTAN. Plusieurs aviations, un avion grec vient s'écraser sur un avion français, un avion allemand, un avion espagnol. Pour moi, ça avait un sens. Hein, vous savez qu'on n'est pas sorti de cette grave crise qu'est l'effondrement économique de la Grèce, pressuré par les dettes et par les créanciers européens. Et c'est un facteur de grande crise pour l'Europe à venir. Et c'est comme si ces deux choses se produisant en même temps avaient un sens. Nous montrer les dangers qui sont sur l'Europe. Voilà. Et donc, c'est très important de pouvoir étudier les synchronicités aussi. Il est fini à 80%, mais comme on a d'autres livres prévus et que nous sommes une petite maison d'édition et que nous n'avons pas beaucoup de moyens, donc c'est Réelle Édition. Donc nous n'avons pas beaucoup de moyens et voilà, donc ce serait un livre qui sortira, je pense, en 2018 ou 2019.